Le jour où on m'a dit va falloir faire tout seul, j'ai d'abord fait la gueule, puis j'ai ri de ma gueule. Tous ces mots qui dégueulent, ça fait une drôle de barre, pas enraser les murs. Au début, pas trop sûr, un moment faut y aller. Au milieu de la rue, y a plus à hésiter. Le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était aux bombes et je les ai bravés. Les gens étaient en ombre à guetter ma rechute. Nous n'étions que des ombres devant le même but. Dans les ruelles sombres et dans les bars à putes, au milieu des décombres et des bêtes en rut. Le jour où j'ai failli m'imaginer poète. Je n'étais moi aussi après tout qu'une bête. Mais j'ai tenté le jeu et me suis entêté pour en toute fin de compte ne plus rien regretter. Le jour où j'ai failli détourner mon regard, c'était presque trop tard et pourtant j'ai tenu. Je me suis accroché à cet instant ténu. Je n'ai pas regretté de m'être un jour battu. Le jour où j'ai pleuré, je n'ai pas oublié, je m'en suis souvenu. C'était si surprenant, c'était tant incongru. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui je ne saurais même pas dire d'où ça m'était venu. Le jour où j'ai gagné, le jour où j'ai perdu.
Monsieur Roland Bolide allemand, 130 000. Travaille dans une banque du centre-ville et tu le racontes.
Aux auditeurs de Radio G.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir Sébastien. On est équipe très réduite pour Imaginaire ce soir dans le studio de Radio G, mais on aura une interview au téléphone.
Voilà, donc on sera rejoint par Valérie Cluzel, donc, qui est en train de nous écouter. Donc vous aurez le plaisir de l'entendre tout à l'heure, nous parler abondamment donc, de sa littérature interactive. Qui fait le bonheur des enfants et même des plus grands.
Elle se décrit elle-même comme auteur de jeux.
Ouais, auteur de jeux et de livres pour la jeunesse, ouais.
Et on parle un petit peu de l'actu de l'association Imaginaire. On a une petite surprise, on vous fera gagner quelque chose tout à l'heure, mais après l'interview de Valérie. Et on commence l'émission par la chronique de Jean-Hugues. Il n'avait pas eu le temps de finir.
Ouais, on avait tranché comme c'était le slasher, donc voilà, suspense. Ouais.
Allez, on écoute la suite de ces dernières chroniques, enfin tout ce qu'il a regardé et ce qu'il a lu sur le 101.5.
Félicitations, Reggie, c'est un calamar.
Chers auditeurs adorés, bon jeu. Alors, j'ai regardé des séries. Alors, j'ai commencé Roswell, New Mexico. Commencé juste, hein. Mais 5 épisodes quand même. C'est un reboot de la série Roswell qui ne m'avait pas laissé un souvenir brillant. Le pitch, un ovni s'écrase à Roswell, blablabla. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que dans une grotte, il y a des œufs. Qui ont été déposés, dont sont sortis 3 enfants qui ont été adoptés. Les 3 sont très beaux, très liés et ont des pouvoirs qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Alors parallèlement, Liz, une latino, revient à Roswell. Elle est brillante et belle et retourne dans le resto de papa. Papa qui est martyrisé par des blancs qui considèrent la famille responsable du décès de 2 d'entre eux. Plus la sœur de Liz, Rosa, décédée, elle aussi, en même temps que les 2 autres. Liz, Rosa et le papa sont des latinos, bien sûr. Tout le monde se connaît pour avoir fréquenté, flirté dans le même lycée. Et Ziva, c'est parti. Le scénario est affligeant, les twists ridiculeusement prévisibles, et on a quand même les gays martyrisés par leur papa, et ça n'arrête pas dans les poncifs. Janine Meissen, qui interprète Liz, est spectaculairement belle. Pour ceux et celles qui préfèrent les hommes, nous avons Nathan Parsett. C'est sympa, mais ça ne sauve pas la série qu'il faut éviter coûte que coûte. Je ne sais plus qui, mais je pense que c'est Jérôme Verschuren qui m'a conseillé de regarder la série Goliath. Alors là, c'est carrément l'inverse du précédent. Vous vous souvenez du héros mythologique David qui, d'un coup de front bien placé, élimine Goliath le puissant. Eh bien, c'est de ce Goliath dont il s'agit. Billy McBride a été un avocat remarquable, mais il a été planté par son ami associé d'un grand cabinet d'avocats et sa femme. Il est retombé dans l'alcool, il vit dans un motel de quatrième catégorie. Une jeune et pimpante avocate de troisième zone fait appel à lui pour s'occuper d'une affaire bien mystérieuse. Il refuse tout d'abord, mais finit par accepter pour des raisons que je vous laisserai découvrir. Dans son équipe, il y a donc l'avocate qui a fait appel à lui, une grosse dame très organisée et une prostituée qui tente de sortir de son addiction à la drogue. Belle équipe de bras cassés, donc, face à un cabinet d'avocats expérimentés aux moyens énormes, protégeant une méga corporation aux moyens quasi limités. Tu le vois le Goliath là ? Sauf que McBride est un sacré engin, un véritable monstre du droit avec une expérience de ouf. L'homme est en plus incorruptible, d'une vive intelligence et extrêmement têtu. De plus, il n'a pas sa langue dans sa poche. Les personnages secondaires sont superbes et je pense que c'est dans ce cadre que la série devient passionnante. Pas de manichéisme forcené, de l'intelligence dans le scénario. Billy ne renaît pas de ses cendres pour devenir le super avocat. Il fait ce qu'il a et il le fait bien. Saison 1 terminée, j'entame la 2 avec un immense plaisir et il y en a 4. Alors pas d'autres, non pas que l'audience ait baissé, juste qu'il n'y avait plus rien à dire sans redire. Allez-y, c'est de la bonne. Et puis j'ai lu aussi. Lors de la réunion imaginaire de samedi dernier, mon bien-aimé président, le sieur Pierre-Marie, m'a filé un bouquin à chroniquer qui avait vraiment une sale gueule. C'était une épreuve non corrigée qui est destinée aux chroniqueurs. Vous savez, il n'y a pas de pelliculage, il y a quelques belles coquilles, une illustration douteuse. Qu'à cela ne tienne, je me suis mis à la lecture du bousin, car moi, ce n'est pas la couverture qui fait le livre, comme j'ai pu l'entendre de gens pour qui, pourtant, j'ai beaucoup de respect. Il s'agit du lieutenant Versiga. Alors, il a une vie de flic dans le Mississippi. Alors, ça a été écrit par Raphaël Malkin chez Marcali. Alors, Raphaël a écrit ce qui semble être une biographie de Rud Lyon qui a eu un beau succès. Lieutenant Versiga se déroule en grande partie à Pascagoula, dans le Mississippi, une ville entourée de bayous, et ne me demandez pas pourquoi j'ai une faiblesse pour les aventures dans les bayous. Versiga a une histoire compliquée, boxeur, champion de tir, pas trop aimé de la police suite à quelques menus méfaits dans sa jeunesse, un peu bas de plafond, mais têtu lui aussi. Il finit par rentrer dans la police qui ne tenait pas vraiment à l'accueillir en son sein. C'est un minutieux, et sa réputation de « il ne laisse rien tomber » lui permettra de réaliser quelques très beaux succès dans ses enquêtes. Et il se met au cold case, ses affaires non résolues qui traînent dans les tiroirs, et que, science progressant, il devient peut-être possible de résoudre. Cela le lance à la poursuite d'un des grands tueurs en série des États-Unis, qui a eu une chance incroyable en croisant des juges indolents. Il s'agit de Samuel Little. C'est superbement écrit, de manière assez froide. Ce n'est d'ailleurs pas sans rappeler au niveau de l'écriture l'excellent Herman Melville de notre ami Francis Carpentier qui ressort ces jours-ci au petit pavé. L'enquête est véritablement passionnante. C'est un document indispensable à tous les amateurs de noir. Chez Gallimard la Noire, j'ai lu En attendant Dogo de Jean-Bernard Puy. Et oui, j'en sors pas de Jean-Bernard Puy. Dogo, c'est le frère de Simone. Et il est surnommé ainsi du fait de sa tendance à être régulièrement en retard et donc en hommage à la pièce de Beckett. Un homme que l'on pourrait qualifier d'insignifiant, vivotant avec brio, doté de parents et d'une sœur qui lui servent d'encre sociale. Sauf que, brutalement, Dogo disparaît. La police enquête en suivant les traces habituelles, carte de crédit, téléphone, etc. Rien. Volatilisé. 6 mois se passent et sous les conseils sociétaux d'un aloi douteux, les parents commencent à faire leur deuil. Mais pas Simone. Elle se débrouille pour prendre congé de son poste d'infirmière libérale et se lance dans une enquête à partir d'éléments disparates trouvés dans le logement de son frère, dont quelques chiffres. Comme vous pouvez l'imaginer, rien n'est simple et les pistes foireuses s'accumulent jusqu'au moment où. Beaucoup de puits dans ce roman, passant sans jamais trop en faire sur la situation sociétale actuelle, climat, appétit de lucre, réfugiés, ruraux. La conclusion amère de ce roman est à l'image de notre société actuelle. Noir, c'est noir, mais il reste de l'espoir, puisqu'autour de nous, il existe, et plus qu'on ne le croit, des personnages comme Jean-Bernard Pouy. J'ai lu aussi la SFFF, achetée lors du dernier Festival Imaginaire. Alors, ça a déjà été chroniqué par mes petits collègues, mais je rajoute ma couche. Alors, il y a le Ouijigo d'Estelle Fay, paru chez Albin Michel, et déjà magnifiquement chroniqué sur le site de l'ESSO par Karine. Rassure-toi, Karine, j'ai adoré aussi. Estelle est une des grandes plumes du monde SFFF aujourd'hui, et c'est toujours une fierté de la recevoir chez nous. J'ai trouvé amusant cet officier bleu qui va trouver dans cette tour sombre un vieil aristocrate qu'il est censé arrêter, ça se passe après la Révolution française, et qui va l'entraîner dans un récit vécu digne des grands contes d'exploration du XVIIIe et XIXe siècle. Il y a du Edgar Allan Poe dans Ouijigo, où j'ai eu des sensations que je n'avais plus eues depuis la lecture de Les Aventures d'Arthur Gordon Pym, qui est l'œuvre de Poe à lire absolument. Ce même mélange le cheminement désespéré dans une nature hostile, parce qu'à Terre-Neuve à cette époque, ça ne rigolait pas, le tout teinté d'un fantastique, dispersé à petites touches subtiles et justes. Plus je lis Estelle et plus je note à quel point elle maîtrise son art de l'écriture, du récit et du scénario sans faille. Les surprises sont nombreuses et le pouvoir des vocations est à faire frissonner. Vous l'avez compris, c'est à lire absolument. Alors Karine, comment tu trouves ? Comme souvent lors de festivals, alors que je bavassais brièvement avec Estelle, je notais la présence à ses côtés de Florian Soulas, que je n'avais pas lu. Je rectifiais immédiatement cette étourderie en faisant l'acquisition de Rouille. Alors, Rouille, nettement, c'est du young adult, ce qui n'est pas un gros mot, hein, je tiens à le dire. Du young adult, mais avec des putes de luxe. Bon, le scénario semble déjà vu, mais pour de nouveaux lecteurs, ça va être la surprise. Comme je le dis souvent, les gros vieux lecteurs ont lu tellement de choses qu'il devient difficile de les surprendre, mais je classerai le roman dans les très jolies surprises pour ceux qui souhaitent se lancer dans la SFFF. Duchesse, une jeune prostituée d'une maison close de luxe, a perdu la mémoire. Sa meilleure amie, prostituée, a disparu et on retrouve ça et là des cadavres mutilés de ses condisciples. Une nouvelle drogue qui donne son titre au roman est apparue dans la ville. Voilà le topo. Mais pourquoi l'avoir lu jusqu'au bout, mon petit Jean-Luc ? Car c'est un roman bourré de qualité. L'ambiance steampunk léger dans un Paris entre deux siècles est superbement rendue. Certains personnages atypiques sont attachants. Je ne pensais pas m'attacher à un macro, par exemple. Et si le roman patauge un peu en longueur dans les deux premiers tiers, la suite est très bien maîtrisée. C'est un premier roman et c'est avec le plus grand sérieux que je vais suivre Florian et ses progrès.
Rabord, hein, enfin, je sais pas comment ça se prononce, c'est écrit Pacop, mais je crois que c'est du cyrillique. Groupe de néo-folk russe qui vient de mettre ce morceau sur leur page Bandcamp, un message de paix. Hein, y a une image avec deux colombes, je pense, en papier qui se croisent dans le ciel. Et puis ce sous-titre, il n'y a pas de gagnant à la guerre. Est-ce qu'on a Valérie en ligne? Allô?
Oui,
oui, ça marche.
Bonsoir.
Ça va?
Bah oui, très bien.
Hop, je te booste un petit peu le micro.
Ouais, on l'entend très bien.
Ouais.
Donc, bah, Romain...
Toi, pas tant que ça, Sébastien, approche-toi, là, vas-y.
Là, ça y est, je pense qu'on m'entend mieux.
Ouais.
Ok, ok, donc bah, je suis très heureux de t'avoir, Valérie, donc Valérie Cluzel. Donc, on a eu la dernière fois, Romain, Xavier Desbarras, donc l'illustrateur d'un frissonnant livre-jeu, un slasher dont vous êtes le héros, ouais. Et qui va être un de nos invités au Salon Imaginaire. Et ça sera le cas également donc, de Valérie Cluzel, donc, qui est une auteure jeunesse de livres à jouer, de boîtes de jeux, escape box, non dénuée de pédagogie pour certains, et d'amour également pour la Bretagne, car Valérie Cluzel, donc, tu es de Guingamp, c'est ça?
Originaire de Savoie. Ça fait pas très longtemps, ça fait un an que je suis en Bretagne.
D'accord. Mais on sent que t'aimes la Bretagne, parce qu'il y a quand même des escape box de chez Prisma qui parlent donc de Bretagne.
Oui. Oui, j'ai une escape box pour adultes avec trois scénarios.
Et donc, Romain, bah, je rappelle que le salon dont on vient de parler, il
donc
aura
Valérie
lieu.
Valérie sera invitée et donc, présente au Salon Imaginaire.
Voilà, il aura lieu les 14 et 15 mai prochains au salon Kurnonski,
à Angers.
Donc, Valérie, que 26 ans. Et une grande bibliographie déjà à ton actif, dis donc. Tu peux nous présenter rapidement les principaux jalons de ton parcours d'écrivain jusqu'à maintenant?
En fait, j'ai commencé à écrire, j'avais seulement 12 ans.
Ah oui.
C'était un peu mon rêve d'adolescente de devenir auteur. Et je me suis dit, bon, c'est un métier, enfin, est-ce que c'est vraiment un métier? C'est compliqué. Et donc, je me suis rabattue sur l'édition et j'ai fait 5 ans d'études. Pour l'édition. Et mon but, c'était d'être éditrice jeunesse, parce que j'avais déjà quand même plutôt une passion pour la littérature jeunesse. Et je me suis retrouvée dans une maison d'édition jeunesse, sans rien d'incroyable. Et je me suis retrouvée dans une agence éditoriale où là, ils faisaient du livre de jeu. J'ai fait 2 ans d'alternance chez eux. Et en vrai, j'ai complètement découvert le livre de jeu là-bas. Je m'étais jamais intéressée vraiment à ça. Enfin, en tout cas, comment les faire. Et du coup, ouais, ils s'occupaient à la fois de l'écriture, mais aussi de la maquette. Enfin, ils faisaient vraiment tous les livres de A à Z. Donc, c'est l'agence Antarctique qui est à Nantes. Et en gros, c'est là que j'ai tout appris. Et fin 2019, ouais, je me suis vraiment mise à mon compte en tant qu'autrice. Et ça a marché tout de suite. J'ai pas eu besoin de trop chercher les clients. Donc, j'étais vraiment trop contente. Et j'ai réalisé seulement il y a quelques mois, en fait, que j'avais réalisé mon rêve d'adolescente. Alors que ça fait plus de 2 ans maintenant. Que je fais ça.
Félicitations.
Ouais. Comme quoi, sur imaginaire, on imagine deux choses et ça marche. Hein.
Bah oui, comme quoi.
Ouais, c'est vrai que les livres-jeux, nous, ça nous paraît évident parce qu'on est arrivé, on avait, ouais, je sais pas, entre 5 et 10 ans quand les Gallimard, les livres dont vous êtes le héros, sont arrivés.
80.
Plus, ouais, voilà. Donc pour nous, ça paraît évident, mais c'est vrai que pour les générations un petit peu plus jeunes, ouais, c'est pas. Alors il y a eu les Vives et l'Aventure, justement, en bande dessinée, quand même, qui était plutôt au début des années 90,
début des années 80, 90, ça s'est arrêté, ça a été repris aussi encore dans les années 2000, et puis c'est 404 qui a repris le flambeau, et on va parler un peu plus tard, oui. Donc dans la deuxième partie de l'interview, d'un nouveau Vives et l'Aventure écrit par Valérie Cluzel. Mais là, je vais parler d'une actualité aussi nouvelle pour elle. Le 17 mars, Romain, il va sortir un Koh-Lanta en escape book chez Dragon d'Or, Les Aventuriers des Caraïbes. Alors Valérie, je sais que là, en plus, il y a Koh-Lanta ce soir en direct.
Ah.
Donc tu pourras le voir en replay et ça nous fait très plaisir donc, que tu viennes nous parler plutôt que d'être devant Koh-Lanta. Parce que tu es une passionnée de Koh-Lanta, tu m'as dit.
Oui.
Avec quand même pas loin de 4 escape box Et il y a un escape book, donc, et plus aussi des escape book, escape box, donc sur Fort Boyard, dont tu m'as dit certains vont bientôt sortir encore de Fort Boyard.
Oui, il y a un escape book et une escape box Fort Boyard qui sortent le 16 juin, donc il y a encore un peu de temps, mais c'est prévu.
D'accord.
C'est un autre rêve à réaliser, ça, d'aller à Koh-Lanta.
Oula, je ne sais pas si j'en serais capable quand même.
Ah bon. Fort Boyard peut-être pour commencer, je sais pas, c'est peut-être.
Ouais, c'est déjà bien.
Ouais, Fort Boyard c'est un peu plus soft que Koh-Lanta. Ouais. Et hors Valérie, quels sont les critères aventureux connus des émissions télévisées à succès que sont Fort Boyard, Koh-Lanta, que tu t'es attaché à reproduire dans tes escape books et box dessus?
Bah, de toute façon, j'essaie de coller au maximum à l'émission, surtout pour que les enfants s'y retrouvent et qu'ils ne soient pas perdus. Du coup, c'est les mêmes épreuves en fait que j'adapte en jeu. Il y a toujours le même déroulé qui, de toute façon, ce qu'on appelle l'ayant droit qui va vérifier que tout est conforme, qu'on suit vraiment le fonctionnement des émissions. Par exemple, pour Fort Boyard, il faut vraiment toujours avoir la quête des clés, la quête des indices. Enfin, ça va toujours dans le même ordre.
D'accord.
Et après, ce que permet justement les escape box et les escape books, c'est que le joueur est vraiment impliqué et il est lui-même un aventurier, par exemple dans Koh-Lanta. Et il est vraiment immergé et je pense que ça c'est vraiment ce qui fait que c'est une aventure aussi pour le lecteur.
D'accord. Tu t'inspires des émissions que tu regardes pour, comme tu dis, tu reprends des épreuves, mais des personnages, est-ce qu'on peut retrouver des personnages, des émissions vraiment qui sont adulés par les plus jeunes et qui souvent on les retrouve dans les 10 ans, les plus grands aventuriers? Est-ce qu'on peut avoir des personnages comme ça qui sont cités en référence dans tes bouquins?
Bah, Koh-Lanta, il n'y a pas de... Non, il n'y a personne. Ouais. Au contraire, Léandre demande plutôt est-ce qu'on parle pas qu'on mette pas des prénoms de candidats qui sont déjà venus.
D'accord.
Qu'on confonde. Et Fort Boyard, oui, par contre, il y a tous les personnages du fort.
Passepartout.
Tarfoura et compagnie, voilà.
D'accord. Et pourquoi le côté jeu illustré prime autant que les mots donc dans les escape books? Là, j'ai devant moi donc l'escape book Fort Boyard. Piégé dans le fort, donc, et il y a pas mal de petits jeux illustrés. Et en quoi vraiment ça a son importance en même temps que les mots pour justement que le lecteur s'amuse en lisant le livre?
Ben, je pense que c'est aussi pour ce côté immersif que si par exemple il y a une porte à ouvrir, ça peut être sympa d'avoir la porte en image pour voir comment fonctionne le mécanisme ou des choses comme ça. Et puis c'est aussi pour varier les énigmes, avoir toujours, j'essaie de toujours mettre un message codé, une énigme un peu visuelle, pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Ouais.
Et tu sais, j'ai démarré là, le piégé dans le fort, bah, la première énigme avec les dalles mouvantes, bah, j'ai dû m'y reprendre à deux fois pour comprendre le mécanisme.
Ah oui.
Donc, mais c'est vraiment bien fait et j'ai comparé avec un Fort Boyard. Qui était paru en Bibliothèque Verte, et à la différence donc d'Aventures sur Mesure en Bibliothèque Verte, là vraiment les jeux illustrés permettent, comme tu dis, une immersion plus grande, comme si on était ouais. Dans l'émission elle-même. Et Valérie, quelle aventurière es-tu dans la vie?
Alors, de manière générale, je vis en Bretagne, j'ai une grande maison avec grand jardin. Je sais pas si c'est vraiment de l'aventure, mais je m'occupe de mon âne, mon ânesse, mon poney, mes poules, je fais mon jardin.
Ah ouais.
Et j'ai pas mal voyagé quand j'étais jeune, donc ça m'inspire aussi quelquefois. Et surtout, j'ai fait une aventure quand même juste avant de devenir autrice. Je suis partie 2 mois en solitaire en Argentine avec le sac à dos. C'était mon rêve de gosse aussi, donc j'ai réalisé tous mes rêves la dernière année.
D'accord. Et justement, ce côté un peu aventurière en Argentine, est-ce que tu l'as retraduit dans tes personnages de héros, héroïnes, des escape books, Koh-Lanta et Fort Boyard? Est-ce qu'il y a un peu de toi dans ces personnages?
Ben, je pense qu'il y a juste le côté... j'essaie de faire en sorte que les personnages féminins soient toujours au moins aussi aventurières que les masculins. Faut essayer de ne pas rentrer dans des clichés. Et après, je ne sais pas si je... leur donne un esprit d'aventure. Enfin, je suis pas une vraie aventurière, Mais oui, après, il y a des petites choses. J'essaye de caler autant que possible. Enfin, dès que je peux, je cale qu'il y a quelqu'un qui vient de Savoie ou quelque chose comme ça. Et je m'inspire un peu de mes souvenirs d'enfance. Je me dis comment moi j'aurais réagi dans ces situations. Et ah oui, aussi, je m'inspire aussi un peu de ma petite soeur parce que j'ai une petite soeur de 4 ans et demi.
Oui.
Et c'est même elle qui a choisi les prénoms des personnages de le prochain Fort Boyard, mon prochain escape book.
Ah d'accord, et tu peux nous dire le titre en exclu?
Oui, c'est Le concours du perfoura.
Oula, alors le perfoura en plus, des fois il nous pose des questions, il décolle, ça va être un peu dur. Hein. D'accord. Voilà, là, je voulais faire un petit tour de ta bibliographie générale, revenir sur les Koh-Lanta et les Fort Boyard. Et là, tu avais un premier choix musical, nous faire partager un coup de cœur, Xavier Dang, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et le titre Storage Tales, c'est un, bah, il y a aussi un streamer qui s'appelle Mr. NZ, ou NZ d'ailleurs, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais voilà, c'est vraiment ce genre de titre qu'on écoute en travaillant et qui est très, très jeu vidéo.
Effectivement.
D'accord, bon, on va s'écouter ça sur le 100.5.
Et on retrouve Valérie sur le 100.5 juste après.
A tout de suite.
Valérie Cluzel, donc, oui, j'ai une question. Dans les livres-jeux, qu'est-ce que tu préfères? Créer les énigmes ou c'est plutôt la partie littéraire?
Bah, c'est plutôt la partie créer un univers. Ça, c'est vraiment ce que je préfère. Et je pense que là, on va bientôt parler des licornes. C'était vraiment l'occasion rêvée de créer un univers.
Parlons-en des licornes.
Oui, alors, Le nuage aux 100 licornes romain, il est paru en janvier 2022. De cette année. C'est à 404 éditions et Valérie en avait écrit un déjà de Vive l'aventure, un tout premier, en janvier 2021. Donc c'est des BD jeux, mais vraiment des illustrations pleines pages.
Ouais. Voilà, format BD, mais c'est pas vraiment des BD, il n'y a pas de bulles.
Il n'y a pas de bulles, mais il y a un peu plus de texte que dans les anciens Vive l'aventure. Et la particularité du nuage sans licorne, c'est qu'on a vraiment un univers personnel, donc apporté par Valérie. Donc je vais vous faire un peu le tableau rapide. On a un royaume de gentilles licornes sur un vaste nuage. C'est le nuage royal qui est composé de 4 villages qui sont autant d'univers frappants. C'est-à-dire qu'on a plusieurs univers pour moi dans un seul univers. On a par exemple les hippicornes, donc dans un village tout végétal. On a l'hélicocampe dans un village marin, les dunicornes dans un village environné de sable, de désert, les candicornes, elles aiment beaucoup les sucreries, les friandises. Et à chaque fois, donc, ces nuages dans le nuage royal, ils ont les couleurs un petit peu de ces licornes qui peuvent être vertes ou roses comme les candicornes. Mais attention, à l'horizon, le nuage grossissant des malécornes, dirigé par Lila à la corne cassée, les menace. Et en plus, elle tient sous son emprise le bon roi donc, du royaume des gentilles licornes, absorbé par son reflet dans un miroir magique. Et à partir de là, des magiciennes, abracadabra, donc, vont appeler des enfants pour justement les aider à affronter Lila et à sauver donc le royaume des gentilles licornes, des malécornes. Alors ce que j'ai bien aimé également, c'est un peu comme dans le principe de, tu sais Romain, de Où est Charlie ? On a des espionnes, donc des malécornes, à démasquer dans les planches qui illustrent les différents villages et coins où on a allé dans le nuage royal. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà un peu pour vous dépeindre très rapidement un peu l'univers. Et là, je vais poser les questions à Valérie pour justement un peu en détailler davantage la chose. Et justement, pour démarrer, qu'est-ce qui t'a amené Valérie à créer une aventure originale illustrée avec des licornes de toutes les couleurs?
En fait, dès que mon éditrice m'a dit faut faire un livre sur les licornes dans cette collection, je voulais tout de suite imaginer plein de villages. Vu que les licornes, c'est comme les arcs-en-ciel, je me suis dit là, faut mettre des couleurs. Et j'aimais bien l'idée d'avoir une double page pour chaque couleur, plus ou moins. Donc j'ai un peu réfléchi comme ça, qu'est-ce qui va avec du bleu, qu'est-ce qui va avec du rose. Et après, je me suis pas mal inspirée aussi du manga One Piece, que je suis une grande, grande fan. Et c'est pour ça qu'on trouve aussi les unicornes, c'est le royaume d'Alabaston en One Piece. L'idée d'avoir à chaque fois une île avec un climat hyper, hyper différent, un peuple hyper différent. Et c'est un peu dans le style du Seigneur des Anneaux, donc je suis très fan aussi. On a vraiment comme les nains, les elfes. Enfin, j'aime beaucoup cette idée d'avoir des royaumes et des peuples très différents. Et je pense que aussi les enfants aiment ça, ce côté varié, quoi.
Ouais, parce qu'on sent vraiment qu'on est dans un univers très vaste et pourtant qui est contenu que dans 41 pages vraiment de jeu. Bon, il y a aussi une page de solution à la fin, en tête bêche. Et à l'instar de ta première BD jeu, là, le royaume aux 100 maléfices, la magie dit, occupe une place dans ton nouvel album illustré, donc le nuage aux 100 licornes, et la magie, un élément que tu apprécies donc retrouver dans tes lectures de romans et nouvelles. Tu nous cites Le Seigneur des Anneaux, peut-être d'autres romans qui t'ont marqué.
Je fais étonnamment pas partie de ceux qui ont lu Harry Potter, alors que c'est ma génération. Mais en fait, j'adore le fantastique en général. Donc oui, c'est les titres que j'ai déjà cités. Et quand j'étais jeune, je lisais vraiment beaucoup Jean-Claude Bourleva. J'étais une fan inconditionnelle de cet auteur qui a écrit beaucoup, beaucoup de fantastique. Et c'est, dès qu'il y a un univers très différent, ça me plaît beaucoup. Et là, je me suis un peu plus mise au récit de voyage, mais avec toujours cette idée, plus c'est différent de ce que je connais, plus ça m'intéresse.
D'accord. Et là, tu as dit que les enfants, ils aimaient beaucoup les choses variées, ce qui est vrai. Et quelles autres recettes magiques uses-tu pour justement captiver les enfants donc, dans tes albums illustrés à 404 ?
Il y a aussi le côté couleur. Je pense que ça, tout de suite, ça a dû les... Rien que la couverture des licornes, elle est quand même très...
Ouais, très coloré. J'ai la croix sur l'œil. Ouais.
Et ouais, je pense que le côté couleur, c'est sûr. Et toujours, bah, après, c'est ce que la collection 404 le veut, où on cherche toujours à faire de l'humour. Je crois que dans tous les titres, il y a plus ou moins ça. Et le côté aussi aventure, parce que là, c'est vraiment aussi très immersif. C'est l'enfant qui doit aller se balader de page en page, il peut choisir où il va. Et je pense que ça leur plaît aussi beaucoup.
Mmh. Et d'ailleurs, oui, il y a aussi le système des arcs-en-ciel. Romain, c'est comme il y a des toboggans et ça fait aussi l'ascenseur. Hein. Et justement, donc tu as travaillé, donc, j'imagine, main dans la main avec Léa Fabre. Oui. Et pour justement mettre en scène un univers aussi vaste, le format donc, interactif là, de 41 pages, pleine page, ça t'a vraiment boosté comme un défi pour façonner ton monde de licorne. Tu t'es dit, mais je vais quand même réussir à en mettre le maximum, malgré le nombre restreint de pages.
Ouais, bah, de toute façon, du coup, j'avais eu de l'entraînement avec le royaume au sein Maléfice, donc je savais un peu comment ça fonctionnait. Et c'est vrai que ce que permet cette collection, c'est qu'au début, on a toujours un plan. Et je m'étais dit, oui, bah, faut que l'enfant il puisse se dire, oh, je vais là, ça a l'air sympa, là, ça a l'air chouette. Et qu'il puisse voir tout de suite que c'est des lieux vraiment. Enfin, chacun est très différent les uns des autres. Et ouais, c'est vraiment le format de délivrer l'aventure, j'aime beaucoup parce que tout de suite ça motive et ça donne beaucoup de place à l'imagination.
Il y a aussi des indices dans les dessins. Il y a même des choses à trouver. C'est plutôt toi, ça, qui dis à l'illustratrice là, il faudrait cacher ça ou. Enfin, je sais pas comment ça a fonctionné votre tandem là.
Bah souvent oui, je propose. Enfin, je fais une description de la double que j'ai en tête avec comment doit être la malicorne pour qu'on la reconnaisse. Et parfois l'illustratrice m'a fait des propositions qui m'allaient beaucoup mieux et donc parfois on prenait sa proposition plutôt que la mienne. Quoi, c'est un peu main dans la main. Et en fait, elle a bonifié mes idées en soi.
Okay. Et d'ailleurs, page 28-29, Romain, pour rebondir sur ce que tu disais, si tu acceptes d'aider les Candy Corn, repère le bonbon en question et rejoins la page correspondante. Donc il faut arriver à retrouver un peu le numéro de page, et j'ai mis du temps quand même à le retrouver, parce qu'il y a quand même beaucoup de licornes, et le bonbon, j'ai eu un mal fou à le voir. Et c'est là tout le travail de l'illustratrice, c'est d'arriver à déguiser un peu le nombre et à faire qu'on n'arrive pas à l'avoir. Et ça, j'ai bien aimé, entre autres. Et avant de conclure, justement, Valérie, tu parles aussi d'univers que tu aimes bien créer. Je reprends ma bibliographie. En Larousse, il y a le royaume d'Alphar, qui m'a l'air d'être un univers aussi tout personnel que tu as créé de fantasy. Et justement, par rapport à 404, Dragon d'Or, donc, quelles sont un peu les différences de conception des jeux de tes livres publiés par Larousse et même chez Hachette? Est-ce qu'il y a des points de convergence ou de différence?
Chez Larousse, c'est très différent parce qu'on me donne plutôt un thème. Et par exemple, le royaume d'Alphar, on m'a juste dit c'est un royaume d'elfes qui s'appelle Alphar. Ah ouais. Après, j'en avais totale liberté. Ah bah, et d'accord. Ça, j'aime du coup beaucoup parce que j'invente ce que je veux. Et c'est un très bon exemple, le royaume d'Alphar, parce que là, c'est vraiment une histoire que j'ai écrite quand j'étais au collège. Et que j'ai réadapté, et du coup là c'est vraiment fermé la boucle. J'étais trop contente de pouvoir en reparler, de remettre mon héroïne que j'avais inventée au collège. Et du coup, quand il y a des thèmes chez Larousse aussi souvent un peu pédagogiques, plutôt des thèmes historiques, j'ai sorti il y a pas très longtemps un livre sur Toutankhamon. Et donc là j'aime aussi beaucoup parce que j'apprends plein de choses. Au début j'en magazine tout ce qu'il y a à savoir, et après je crache tout sur le papier, enfin sur l'ordinateur. Et ce que j'aime bien aussi chez Larousse, c'est que là je fais pas du tout de plan, et en fait j'ai l'impression de me raconter l'histoire à moi en l'écrivant, et ça me plaît bien. Et chez Hachette par contre ça rejoint quand même plus que Dragon d'Or, que ça reste des univers déjà créés avec un ayant droit, et donc là c'est plus de l'adaptation du coup, et imaginer une nouvelle histoire dans un univers déjà inventé.
D'accord. Donc, je vous rappelle donc que Valérie va sortir un nouvel ouvrage donc le 17 mars, Les Aventuriers des Caraïbes chez Dragon d'Or, et son pendant son pendant pardon, en escape box Panique dans les Caraïbes à la même date, et plus tard une escape box Fort Boyard et un escape book Fort Boyard. Et dans tous les titres là dont on a parlé, Romain, on aura donc de ces titres donc qui seront présentés et en dédicace donc par Valérie Cluzel à notre salon donc imaginaire qui aura lieu au salon Kurnonski, et ça sera donc le premier salon en tant qu'autrice de Valérie. Donc ça sera un peu son baptême du feu. Voilà, et t'aurais un dernier mot de conclusion à nous dire, Valérie, avant ton dernier choix musical à nous faire passer?
C'est un lisez et jouer.
Super, bon, on adore ça.
On aime ça, sans imaginer.
Et nos auditeurs aussi, j'espère.
Ouais.
Et donc, on enchaîne avec The Cure, alors Boys Don't Cry.
Oui, qui est une de mes chansons préférées. Voilà.
Et là, donc, par contre, on va écouter une version live de
pour 2018. Les 40 ans, ouais.
Ok. Eh ben merci Valérie, à bientôt.
À très vite Valérie.
Merci.
Merci. Merci à toi.
Donc, grand classique de Cure, hein, enregistré pour les 40 ans du groupe à Hyde Park en 2018. Je vous disais en début d'émission, on a un pass de jour à faire gagner pour l'Angers Geek Fest qui se déroulera au Parc Expo. C'est les 2-3 avril ou 3-4, je ne sais même plus, samedi, dimanche, premier week-end d'avril.
Oui.
Donc, envoyez-nous un petit message à Imaginaire, soit sur notre page Facebook, soit sur notre compte Twitter, soit sur notre page Instagram. Et on fera un tirage au sort et donc on offrira ce pass deux jours. Sébastien, tu voulais nous parler des remises des prix du FIGE.
Oui, alors...
Le Festival International des Jeux de Cannes.
Oui, là, je voulais vous en parler. En fait, c'est un festival, le Festival International des Jeux de Cannes qui a lieu depuis un certain nombre d'années. Mais exceptionnellement, donc, il y a eu une première remise de prix qui ont couronné des livres-jeux.
C'était la première fois cette année.
La première fois pour les livres-jeux. Donc,
il était temps.
Il était temps, mais il y a déjà eu des remises de prix pour les IAS, c'est-à-dire pour des écrits d'auteurs amateurs qui reçoivent des IAS d'or, des IAS d'argent, des IAS de bronze.
Mais ça, c'est un truc un petit peu interne à la communauté.
Oui, mais qui est aussi présent quand même à Cannes et tout, donc pour mettre en valeur justement ces auteurs. Et
il y a aussi les Graal aussi qui récompensent des jeux de rôle. Ça, ça existe depuis longtemps, je crois.
Et donc, pour cette première, on a eu 4 prix. On a eu un prix jeunesse pour Toutou Détective. Donc chez Inis Éditions, des enquêtes humoristiques que vont adorer les enfants, traduites de l'italien. On a eu un prix ado-adulte, en fait un prix ex-aequo, pour Sombre Ressac, paru chez Eldercraft, des aventures d'Heroic Fantasy, et Complot sous la lune, chez Posidonia Éditions. Donc c'est une chronique et je vous la présenterai donc un peu plus tard donc dans la saison.
Et Complot sous la lune.
Voilà, Complot sous la lune, un livre-jeu, mais très différent de ce qu'on a l'habitude.
Il n'y a pas de dés déjà, je crois, chez
Je pense que je n'ai pas encore vraiment lu les règles à fond, mais il y a très peu de combats. Et c'est vraiment une ambiance un peu craspec et tout, avec des voleurs, des mendiants. Donc très intéressant. Et un prix aussi qui a couronné un escape game. Les enfants de la résistance, donc chez Lombard. Donc 4 prix. Et vous pouvez retrouver une très bonne petite vidéo de présentation de la chose sur donc, la page YouTube de mon ami Indigo, donc, et qui donc, s'occupe de livre-jeux.fr. Donc qui a défendu donc, ce prix et a raison. C'est un peu le porte-étendard quand même de, du genre du livre-jeu sur la toile. Ouais. Avec le forum de la Taverne des Aventuriers que toi et moi nous connaissons bien, Romain, pour en être des membres réguliers et actifs. Donc voilà ce que je voulais vous dire et vous aurez la surprise donc du Complot sous la lune un peu plus tard.
Ok, et on va passer à ton choix musical, toi Sébastien.
Oui, alors tout simplement, place maintenant à Axel Bauer sur Radio G qui imagine, justement, vous allez l'entendre, dans Vipère Danse, un slow rock fiévreux. Ça tombe bien, nous sommes sur Imaginaire. We'll be right back.
Axel Bauer, donc, dans Imaginaire sur le 101.5. C'est bien, ça nous change de cargo de nuit. Hein. Merci Sébastien. Et c'est l'heure de notre rubrique agenda. Alors, prochain gros événement qui nous concerne, c'est l'Angers Geek Fest. Le troisième qui se déroulera les 2-3 avril, toujours au Parc Expo. À Angers, donc on a un pass deux jours à vous faire gagner, donc n'hésitez pas à laisser un message sur notre page Facebook ou notre Twitter ou notre Instagram. On aura un stand encore cette année là-bas avec alors on aura Roxane Dambre, Florian Soulas, Audrey Plénet et Patrice Véry aussi en littérature. Côté bande dessinée, on aura
Tony
Murillo et Boris Beuzelin, toujours pour Paria. D'ailleurs, ils participeront à une table ronde sur le comics à la française, qui sera animée par Pierre-Marie, hein, pour Imaginaire. Il animera aussi une autre table ronde, dont je n'ai pas encore le titre, sur les femmes et les sciences, je crois, quelque chose comme ça. Bon, alors c'est la thématique, alors c'est la journée des droits des femmes aujourd'hui,
oui.
Mais alors la thématique de l'Angers Geek Fest, c'est la culture geek au féminin. Et on reviendra pas mal dessus dans notre prochaine émission sur le 101.5 dans 15 jours. Il y a une très belle affiche avec Wonder Woman assez rigolote là. Ensuite, il y aura le Salon Imaginaire, hein, donc on retrouvera Valérie Cluzel qu'on a entendu tout à l'heure. Et puis, je dirais une quarantaine d'invités, hein, notamment Benoît Dupeloux qui sera l'invité de notre prochaine émission aussi dans deux semaines.
Qui nous parlera de Traquenard et Faribault 2, donc okay. La nouvelle bande dessinée qui est sortie tout récemment. Donc ça sera un vrai plaisir que de le recevoir donc, dans l'émission.
Et puis on aura aussi un autre événement qui est en train de se monter. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on avait appelé le Lazarfest l'année dernière, qu'on avait fait à la Chapelle Saint-Lazare. Une journée autour du jeu de rôle, une thématique plutôt old school de role-playing, Donjons et Dragons. Et cette année, là, on est en train de remonter ça. Donc ce sera le samedi 2 juillet. Et ça se déroulera au showroom de la chaumière du Bout des Rêves, qui est un de nos partenaires. Et la thématique sera la piraterie. Voilà. Donc notez tout ça dans vos agendas. Et nous, on va se quitter pour ce soir. Pas de voix du scénario, ça va être les bandes de Radio G qui vont enchaîner. Sébastien, dernier choix musical, Bigaranx.
Regarde-moi, donc extrait de Sunset Cassette en 2020. C'est un titre très positif et je pense qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup de positif et ouais, plein de pensées pour le peuple ukrainien qui souffre aussi.
Ok. Eh ben, on se donne rendez-vous dans deux semaines. Et donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux d'Imaginaire pour gagner un pass de jour pour l'AGF. À bientôt sur le 101.5.
Regarde-moi dans les lunettes. Regarde-moi comme la dernière allumette. J'ai plus le temps de faire la même chose. Si les saisons changent à contre-tempo. Regarde-moi, qu'est-ce qu'on est bien. Fermons les yeux jusqu'à demain matin. On partira sûrement demain très tôt. Ici le soleil danse à contre-tempo. Yeah. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on t'a fait. T'écris ton histoire dans un autre d'affaires. J'ai plus le temps, je dois aller ta fête. Si l'avenir est noir dans le marc de café. Je suis dans la lune, dans ma bulle, dans ma BD. Yeah. Tu parles tout fort mais j'entends 0 dB. Fais qu'un ton qu'un recevait. Le soleil m'attend quelque part derrière les volets. On vivra caché comme les mauvais côtés. On traînera dehors les soirs d'été. Passer les frontières en volant d'une jetée. J'essaye encore de savoir qui tu étais. Regarde-toi dans le ciel bleu. J'ai pété la lune pour savoir ce qu'elle veut. On oubliera tout ton passé. Yeah. Regarde-moi dans les lunettes. Regarde-moi comme la dernière allumette. J'ai plus le temps de faire la même chose. Si les saisons changent à contre-tempo. Regarde-moi, qu'est-ce qu'on est bien. Fermons les yeux jusqu'à demain matin. On partira sûrement demain très tôt. Ici le soleil danse à contre-tempo. Yeah. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on est bien. parfait. J'ai plus le temps, je dois l'étaffer. Si l'avenir est noir dans le marc de café, je suis dans la lune, dans ma bulle, dans ma BD. Tu parles tout fort, mais j'entends 0 dB. Roule ma basse, mais quand ton cœur recevait, le soleil m'attend quelque part derrière les volets. On vivra caché comme les mauvais côtés. On traînera dehors les soirs d'été. Passer les frontières en volant d'une jetée. J'essaye encore de savoir qui tu étais. Regarde-toi dans le ciel bleu. J'ai pété la lune.